Bonjour. Vous savez, je suis convaincue que le Seigneur peut nous parler de manière différente. Au travers de sa parole, la Bible, de la prière, c'est évident, mais pas seulement. D'après votre expérience personnelle, comment Dieu peut nous parler? Quelles sont les manières qu'il peut utiliser pour nous parler? Allez, je vous écoute. Oui. D'autres manières que la Bible ou la prière? Les circonstances? Les frères et sœurs, ouais. La nature? Les épreuves? Ouais, ça c'est une bonne. Il peut nous parler aussi au travers d'une chanson? Il peut nous parler au travers d'un livre, tout simplement parce que Dieu n'a pas de limite. Et donc, la manière dont il va choisir de nous parler, elle n'est pas limitée non plus. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prêcher. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même préparé quelque chose. Je vous propose par contre de retomber en enfance et de méditer au travers d'une parabole inspirée d'un verset biblique que vous verrez quand le slide aura tourné. Les paraboles, elles ont le don de toucher à la fois notre cœur et notre intelligence. Alors, ouvrez grandes vos oreilles et laissez-vous porter. Laissez-vous porter dans un pays lointain, à une époque lointaine, au temps des dragons et des damoiselles en détresse, quand les chevaliers portaient une armure et les rois leur couronne au petit déjeuner. À cette époque-là vivait un souverain riche et puissant. Pour le monde entier, il était connu sous le nom du bon roi Paxalom. Son armée était si nombreuse et si bien entraînée que tous les autres rois de l'Empire l'enviaient et fatalement le redoutaient. Mais, ça tombe bien, le roi Paxalom aimait la paix. Partout dans son vaste empire, il était à la fois aimé et craint de ses sujets. Il connaissait des choses sur les gens que eux-mêmes ne connaissaient pas. On murmurait aussi qu'il détenait l'ancienne recette d'un élixir qui pouvait guérir toutes sortes de maladies. Bien sûr, beaucoup ne croyaient pas à ces fables ridicules, mais tous s'accordaient pour dire que le roi Paxalom était l'homme le plus sage du monde. Un certain lundi matin, le roi Paxalom convoqua son fils. « Gabriel, il est temps de te marier. » Tu as 25 ans, tu es beau, tu es riche, plein de qualités, et surtout, tu es mon fils. Tu dois assurer la succession du trône. Moi ? Marié ? Enfin, père, c'est absurde. J'ai rencontré encore personne qui me plaise. Baliverne ! Il faut juste que tu rencontres des princesses, voilà tout. Je vais organiser des bals. On va inviter toutes les princesses, toutes les filles des rois de l'Empire, et puis elles vont toutes venir, toutes celles qui sont prêtes à marier. Et durant tout l'été, il y eut chaque mois un bal. On présenta à Gabriel des dizaines et des dizaines de princesses. Et elles rivalisaient d'élégance. Chacune fit une entrée des plus remarquées. Chacune voulait avoir la robe la plus volumineuse. Certaines coiffures étaient même si grosses qu'elles avaient du mal à garder la tête haute. Père, je ne peux pas tomber amoureux de filles qui sont déguisées en poupées, aussi belles soient-elles. Et puis, franchement, entre nous, on sait très bien que si elles veulent m'épouser, c'est pour ma couronne, c'est pas parce qu'elles m'aiment. Ah, l'amour, l'amour! Les rois ne se marient pas par amour! Enfin, tu l'as fait, toi. Oh, très bien, très bien. Oublions les princesses. Le roi fit donc venir au palais les filles des barons et des riches marchands de tout l'empire. Mais Gabrielle les trouva si ennuyantes que passer sa vie avec l'une d'entre elles le déprima terriblement. Il prit donc une décision. Père, j'aimerais prendre un congé, oublier provisoirement que je suis prince et partir en voyage comme un simple jeune homme. Gabriel, mon fils. Je sais ce qui te motive. Tu espères trouver une jolie fille qui t'aimera telle que tu es et pas parce que tu es prince. Je comprends. Très bien, soit. Je ne te laisserai partir, par contre, qu'à une condition. Si tu trouves une fille qui t'aime... Attends, te réjouis pas trop vite. Et si tu parviens à la ramener ici avant qu'elle ne se doute de ta véritable identité, alors, et seulement alors, je consentirai à ce que tu l'épouses. Gabriel trouva la condition bizarre, mais bon, il avait confiance en la sagesse de son père. Il partit donc, vêtu simplement, avec pour monture le plus vieux cheval des écuries royales et un gros sac d'or dans sa poche. Il voulait s'éloigner le plus possible du palais pour éviter que les gens le reconnaissent. Logique, il était censé être incognito. Il se dirigea donc vers la région la plus éloignée de l'Empire. Le voyage dura des semaines. Il traversa des plaines poussiéreuses, des forêts sombres et dangereuses et les pics des montagnes menaçantes. Jamais Gabriel ne se plaint, malgré ce périple quand même fatigant. Il faisait beau et Gabriel était beaucoup trop excité de cette nouvelle aventure. Vous comprenez, il n'avait jamais quitté les murs du palais. Il finit par arriver dans une contrée lointaine, très lointaine, où les paysages étaient très différents de ce qu'il avait toujours connu et où les gens avaient un drôle d'accent. C'est le moment que choisit son fidèle destrier pour mourir d'épuisement. Et Gabriel dut se résoudre à aller acheter un nouveau cheval en ville. Il dégustait un bon repas dans une taverne quand un groupe de jeunes gens l'accostèrent. « Oh, Gadjo, paraît que tu as un cheval, que tu as besoin d'un cheval peu cher ?» C'est ton jour de chance. Allez, viens par là. Ils l'entraînèrent dans la cour arrière de la taverne et le mirent à terre, le frappèrent et lui prirent tout ce qu'il possédait. Ils partirent en le laissant là, inconscient et sacrément mal en point. Les minutes passèrent. Tic, tac, tic. tic-tac. Puis les heures. Tic-tac. Tic-tac. Gabriel ouvrit enfin les yeux. Ouch ! Ah, c'est douloureux ! Mais la douleur passa aussitôt quand il vit la jeune fille agenouillée près de lui. Elle avait des vêtements tout simples, mais pour Gabriel, elle était bien plus belle que toutes les princesses qu'il avait rencontrées. Serena, c'était son nom, était la fille du cordonnier. Et tous les deux l'avaient trouvée et avaient pris soin de Gabriel. Une fois rétabli, Gabriel se dit « Il faut que je fasse quelque chose pour les remercier de leur gentillesse quand même. » Donc il proposa au cordonnier de rester quelque temps pour effectuer quelques besognes. Bien entendu, Gabriel et Serena devinrent très vite complices et ils tombèrent éperdument amoureux. Gabriel demanda la main de Serena à son père. Par contre, il y a juste un problème. Je ne peux pas épouser Serena ici en ville. Mon père a insisté pour la rencontrer avant. Il habite au-delà des montagnes menaçantes. Comment ? Peu cher, tu veux traîner ma fille dans ces terribles montagnes ? Avant même de l'épouser ? Monsieur, faites-moi confiance. Je vous promets de veiller sur elle. Alors, le vieil homme donna son consentement et les deux jeunes tourtereaux commencèrent leurs préparatifs.
Et si ton père ne veut pas de moi ?
Quoi ? Mais non ! Ne t'inquiète pas. C'est impossible.
Ok, je te crois.
Tu sais, Gabriel, avant sa mort, ma mère m'a donné ce coupon de soie. Je l'ai conservé pour une occasion vraiment spéciale. Je vais le découper en forme de cœur, car je sais déjà que je vais beaucoup aimer ton père. Gabriel, Serena et l'âne, offert par le cordonnier, se mirent en route à la fin de l'automne. Le soleil était encore chaud et ils étaient très heureux. Ils étaient ensemble, ils allaient se marier. Gabriel demandait régulièrement à Serena « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Et Serena répliquait toujours « De tout mon cœur. » L'amour était facile. Puis, ils arrivèrent au centre des plaines poussiéreuses. Le soleil brûlant leur donnait la migraine. La poussière irritait leurs yeux. Puis la chaleur fut vite remplacée par une pluie mordante.
Nous aurions peut-être dû attendre le printemps. Tu ne crois pas, Gabriel ?
Mais tu m'aimes, n'est-ce pas ?
Ah oui, oui, bien sûr ! Avec toi, j'irai n'importe où.
Mais ça, c'était avant. Avant d'apercevoir au loin les montagnes menaçantes. Les plaines interminables avaient été épouvantables. Et dans la forêt, ce fut bien pire. Les forêts devinrent si épaisses et ténébreuses qu'il était difficile de distinguer le sentier.
Je voudrais n'être jamais venue. Comment on fait si on se perd, Gabriel ?
T'inquiète pas, je connais le chemin. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?
Oui, je crois. Mais elle n'en semblait plus si sûre.
C'est alors qu'ils atteignirent le pied des montagnes menaçantes.
Oh, peu cher ! On va vraiment devoir gravir tout ça ?
Oui, mais t'inquiète pas, je serai juste à tes côtés. Mais on ne peut pas les contourner ?
Malheureusement, c'est le seul moyen pour aller chez mon père. Non. Non, Gabrielle, là, c'en est trop. C'est plus que ce dont je suis capable. Vraiment, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Serena. Si seulement tu savais comme ça sera merveilleux une fois que nous serons dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de place. Et mon père, il est si... Oh, fais-moi confiance. Encore un peu. Très bien. Je vais essayer.
Elan choisit précisément ce moment-là pour refuser catégoriquement d'avancer un pas de plus. Du coup, ils durent le laisser là, à un bûcheron qui passait. La route continua donc. Gabrielle et Serena grimpèrent. Puis, la neige se mit à tomber. Un peu. Puis fort. Très fort. Si bien que le sentier disparut complètement. Gabrielle décida de s'assurer qu'ils étaient toujours sur la bonne route, et donc il demanda à Serena de l'attendre.
« Quoi ? Mais comment je peux être sûre que tu reviendras ?»«
Mais parce que je t'aime, voyons. » Il fut absent longtemps. Tic, tac. Tic, tac. Très longtemps. Tic, tac. Tic, tac. Prise de panique, Serena se leva. Elle avança et puis elle vacilla dans la neige et elle se retrouva face à une large crevasse.
Je suis là, 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 là. J'ai trouvé le chemin. Il faut juste que tu sautes au-dessus de la crevasse. Vas-y, Serena, je te rattraperai.
Quoi ? Non, non, c'est trop. Comment je vais être sûre que tu vas me rattraper ?
Mais parce que je te l'ai promis. Je vais pas te laisser tomber, enfin, je t'aime.
L'amour ! Si tu appelles ça l'amour, tu as une drôle de façon de le montrer, hein.
Quand on sera arrivé à la maison de mon père, tout ira bien. Je te le promets. Fais-moi confiance. Encore un peu.
Confiance ! Confiance ! Confiance ! Tu n'as que ce mot à la bouche ! Je ne te comprends plus !
Je te comprends plus.
Peu importe que tu me comprennes ou non. Il suffit que tu me fasses confiance.
Saute !
Et elle sauta. Simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais elle n'éprouvait plus du tout d'amour. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent enfin au palais. Dépenaillés. Affamés. Titubant. Serena était inconsciente dans les bras de Gabrielle. Père, j'ai trouvé une jeune fille qui m'aime pour moi seule. Elle a accepté de renoncer à tout ce qu'elle possédait pour me suivre. Gabrielle, regarde-la. Mon fils, elle a terriblement souffert par amour pour toi. Lentement, Serena ouvrit les yeux et elle vit le visage du père et du fils penché sur elle. Gabriel lui présenta son père. Tremblante, Serena fouilla dans sa poche et en tira le petit cœur en soie. Mais il était en lambeaux. Il était encore gelé. Il portait les marques des épreuves endurées. Le roi Paxalom prit le cœur et il n'arriva plus à cacher ses larmes. Oh, Serena, pour moi, c'est le plus grand trésor qu'on puisse m'offrir. Y a-t-il quelque chose de plus précieux qu'un cœur prêt à affronter tant de souffrances uniquement par amour? Gabriel, tu m'as dit que ce voyage en valait la peine à l'arrivée. Dès que j'ai vu le visage de ton père, j'ai su que tu avais raison. Merci de m'avoir fait confiance, Serena. Le roi Paxalom convoqua les chevaliers de la table octogonale et il fit une annonce. Je crois que personne n'est digne d'épouser mon fils. Toutes les richesses et toute la beauté du monde n'y suffiraient pas. Mais son amour pour Serena et la confiance qu'elle a mise en lui sont les meilleures armes. Pour moi, c'est suffisant. Les chevaliers ne purent qu'applaudir, puis ils se hâtèrent d'organiser le mariage le plus somptueux de tous les temps. Des contes qui ont bercé notre enfance, tous ont une morale. Et celui-là ne va pas échapper à la règle. Jésus a beaucoup parlé en parabole. Une parabole, c'est une histoire inspirée de la vie courante. C'est une histoire qui illustre une vérité spirituelle. Chaque détail de l'histoire n'est pas forcément applicable, parce qu'une parabole, ce n'est pas un enseignement. Il s'agit de chercher à tirer les trésors cachés. Il s'agit de chercher à tirer les pépites de vérité qui vont nous parler à un moment donné. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai tout d'abord été profondément agacée par Serena. Cette petite chose fragile qui a peur à tout moment ou qui doute, c'est la vraie damoiselle en détresse. Et puis j'ai réfléchi. Est-ce qu'au fond, avant de la juger si rapidement, la pauvre, est-ce qu'au fond, je ne suis pas un peu comme elle ? Est-ce qu'au fond, je vais pousser l'idée, est-ce qu'au fond, on n'est pas un peu tous des Serena dans notre relation avec Jésus? Tant que tout va bien, que tout se déroule comme on l'a planifié, c'est facile de dire qu'on aime Jésus. C'est facile de dire qu'on est prêt à souffrir pour lui, à endurer toutes les épreuves. Mais quand la route devient escarpée, quand il y a des crevasses au travers desquelles il faut sauter, quand les sentiers disparaissent, à quoi tient notre amour ? À quoi tient notre amour ? Dans ces cas-là, est-ce qu'on est mieux que Serena ? Pour moi, je connais la réponse. Jésus nous a prévenus. Pour chaque personne qui décide de le suivre, le chemin ne sera pas de tout repos.
Si lui a souffert, pourquoi en irait-il autrement pour nous ? Sur la route avec Christ, on avance, parfois en marchant, parfois en courant, mais on va toujours vers un seul but, la maison du Père, la maison de Dieu, le royaume qui nous est promis. Mais sur cette route, nous aussi, on va traverser des plaines poussiéreuses. Nous aussi, on va traverser des forêts sombres et dangereuses. Et nous aussi, on va être confrontés aux menaces, aux montagnes menaçantes. D'ailleurs, c'est un peu elles les pires. Parce que bien souvent, ces montagnes qui sont ces expériences de la vie, ça nous paraît infranchissable. Chacun d'entre nous peut penser à une chose qui lui paraît infranchissable. Et souvent, on s'écrit avec le psalmiste, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Quand les épreuves surviennent, quand la route n'est pas si plate que ce qu'on avait prévu, comme Serena, on a parfois du mal à se rappeler ce qui nous a motivés à faire cette longue route. L'amour de Jésus pour nous et notre amour pour lui en retour. Et parfois, oui, on veut juste baisser les bras, s'arrêter sur le bord du chemin. Et comme Serena, on peut aussi réagir par le doute, par la peur, par la colère. Dire à Jésus, si tu appelles ça l'amour, t'as une drôle de façon de le montrer. Jésus, lui, à tout moment, nous invite à lui faire confiance. Avec patience. Une infinie patience. Il nous encourage à continuer à avancer, un pas après l'autre. Parce que lui seul connaît le chemin qui mène à son Père. Il est le chemin. Parce qu'il nous aime, il nous guide. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'on se retrouve au bord d'une falaise. Il ne veut pas qu'on soit en danger. Il veille sur nous. Et sans arrêt, il nous promet que ce voyage en vaut vraiment la peine. Si aujourd'hui il y a un voyage à entreprendre, c'est bien celui avec Jésus. Paul disait « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Pour Serena et Gabriel, la récompense, c'est une vie passée ensemble, peut-être des enfants. Nous, notre récompense, c'est la vie éternelle avec Dieu. C'est ça notre but. C'est cette perspective qu'on ne doit pas oublier. Cette parabole nous apprend que sur la route, nous avons deux armes, les meilleures. Savoir que nous sommes profondément aimés par Jésus. Au point qu'il a donné sa vie à notre place. Il a payé le prix fort pour que nous puissions vivre. Il nous aime. Et puis la deuxième arme, c'est de lui faire confiance, d'avancer, même quand on ne sait pas où on va, même quand le sentier semble avoir disparu et qu'on se demande « Mais pourquoi est-ce que je passe par là ?» Lui faire confiance. L'amour de Jésus pour nous et la confiance qu'on lui donne,
c'est suffisant. Nous n'avons besoin de rien de plus. Et un jour, on sera auprès du Père Céleste et on regardera en arrière le tableau de notre vie et tout prendra sens. Tout. Mais pour ça, il nous faut un recul nécessaire. Et là, à ce moment-là, on dira à notre tour, tu avais raison, Seigneur. Ce voyage en valait vraiment la peine.